Dans une assiette, tu vois visuellement ce que tu vas mettre dans ta bouche. Alors que dans le sandwich, c'est un peu à l'aveugle. Il y a ce pain qui étouffe esthétiquement ce qui le comporte. Et du coup, tu croques un peu à la découverte de la garniture.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Souvent, l'actualité s'ancre dans notre mémoire collective par le biais de nuages de mots-clés, ces mots qui nous permettent de nous souvenir des événements et soubresauts d'une époque. Par exemple, on peut facilement dire que 2015 et 2016 ont été marqués par les attentats ou encore Nuit debout. Et personnellement, quand je pense à cette période-là, j'ai tout de suite en tête les rues de Paris comme décor, la place de la République, tantôt vide, tantôt remplie, les rassemblements salvateurs, mais aussi la crainte de se retrouver dans un mouvement de foule. Dans le même exercice, 2020-2021 restera synonyme dans nos esprits d'une période ébranlée par la pandémie. Et là encore, un nuage de mots-clés en découle instantanément. Contamination, tests, masques, attestations, couvre-feu, fermeture des restaurants. Dans cette charmante liste, j'ajoute volontiers « air des plats tièdes ». Parce que niveau alimentation, c'est le truc que je trouve pénible avec la crise sanitaire. Avec l'impossibilité de manger sur place, la pandémie nous a habitués à prendre des plats à emporter et à les manger chez nous, dans nos bonnes vieilles assiettes, sans le dressage et la cuisson minute pourtant si caractéristiques de l'expérience du restaurant. Lassés de servir des plats qui ne se tiennent pas et ramollissent en barquette, les chefs sont donc nombreux et nombreuses à se tourner désormais vers le bon vieux sandwich. Mais attention, pas le classique jambon beurre qui est principalement un casse-dalle fait de produits assemblés les uns avec les autres. On parle ici de sandwichs qui sont à chaque fois de vrais défis de créativité, puisqu'ils sont constitués d'éléments cuisinés en amont, puis associés avec soin. En bref, des sandwichs pensés avec autant d'ambition que des plats. Dans cet épisode choral, plusieurs voix se succèdent pour rendre hommage aux sandwichs comme exercice de style, en cas pratique dans la vie quotidienne et expérience de voyage. On commence avec Michele Farnesi, chef qui officie chez Dilia, restaurant italien du 20e arrondissement à Paris. Depuis plusieurs mois, Michele propose des sandwichs italiens. Sandwich de tripes à la romaine, sandwich de cervelle de veau frite. Chaque semaine, il cuisine un nouvel abat.
On a commencé à les faire cet hiver, vu qu'en fait la crise sanitaire nous a obligés de fermer les restaurants. Et on cherchait quelque chose qui puisse nous tenir quand même occupés pendant les mois de fermeture. Donc, on voulait pas faire la cuisine qu'on fait habituellement parce que on pense que la cuisine qu'on fait ici quand même soit meilleure quand c'est 8 minutes, 20 minutes et que du coup soit pas très exportable. Du coup on cherchait quelque chose que ça puisse faire plaisir aux gens quand même, que soit exportable facilement et ou facile à manger quand même debout devant le restaurant. Du coup, on a pensé de faire qu'est-ce que quand même on aimait bien faire, parce que les sandwichs c'est quelque chose qu'en Italie on mange beaucoup, suivant sur la roue, suivant debout, suivant sans couvert ni rien, suivant c'est sali un peu, et même tant mieux, parce que ça veut dire que le sandwich est bien garni. Du coup, voilà, on a commencé à faire des sandwichs et en Toscane, c'est là d'où je viens, on fait des sandwichs avec pas mal de sandwichs avec des abats en fait. On fait des sandwichs avec la langue de bœuf, on fait des sandwichs avec en particulier des tripes qui s'appellent l'ampredotto en Toscane, qui c'est des tripes juste bouillies blanc avec de la salsa verde. Et aussi, on fait des sandwichs avec la tripe. Du coup, voilà, on s'est dit, effectivement, on fait d'autres choses aussi, hein, parce que si on fait juste des sandwichs avec les abats, ça peut poser problème pour certains, ou aussi pour les végétariennes qui ne mangent pas la viande, etc. Mais c'est quelque chose qu'on aime beaucoup manger, qu'on aime bien cuisiner aussi. Et du coup, voilà, on a pensé de faire une fois par semaine, on change évidemment. Du coup, c'est pas là tout le temps. Mais quand c'était le moment de les sandwichs avec les tripes à l'intérieur, c'était un grand succès.
J'ai également demandé à Michele de nous en dire plus sur la préparation de ces sandwichs.
Les tripes, c'est pas compliqué. Il faut juste un peu de patience et de gestualité, de bonne technique, mais que ce soit facile à réaliser pour tout le monde. de base, quand on reçoit la tripe, il faut la blanchir avec un petit peu d'oignon, céleri, carotte, vite fait, juste pour enlever un peu le côté violent des odeurs de la tripe. Après, on coupe la tripe dans une façon un peu particulière, en contre-fibre et en diagonale, comme des espèces de tagliatelles de tripe. Et après, on commence à faire la sauce avec les soffritos, donc céleri, carotte, oignon, ail, un petit peu de guanciale, donc de la charcuterie italienne qu'on utilise dans les soffritos. On met la tripe, on rajoute la tomate et on laisse cuire pendant 2-3 heures à feu très doux. Et voilà. Et après, on termine, au moment de l'envoi, en général, on termine avec un petit peu d'huile d'olive. Et après, voilà, chaque région, elle termine un peu comme elle veut. Les tripes alla romaine, par exemple, c'est Monte Pecorino. Et en Toscane, les tripes toscanes, par exemple, c'est fait avec basilic et parmesan. Ça, après, c'est selon qu'est-ce qu'on a envie de manger ou qu'est-ce qu'on a envie de faire.
Pour Michele, qui a grandi en Italie, le sandwich est une véritable habitude nationale.
En Italie, on a un peu la tendance à balancer tout dans un sandwich aussi pour le midi. Par exemple, je me souviens que ma grand-mère, quand on allait en montagne, quand j'étais petit, elle faisait des sandwichs avec de la milanaise faire venir dans un sauce tomate, par exemple. Elle mettait ça dans un sandwich pour y aller en montagne, par exemple. Avec les restes, en fait, suivant, on balance dans un sandwich et voilà la grande essence. Mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, j'ai une idée géniale, on va faire un sandwich au trip.
Ce qui est intéressant avec ce regain d'intérêt pour le sandwich à l'ère des plats à emporter imposé par la pandémie, c'est ce retour à l'essence du sandwich. Enfermer des ingrédients dans 2 tranches de pain par souci de praticité. Comme au XVIIIe siècle, où un certain John Montagu, diplomate britannique et comte de Sandwich, a inventé le sandwich. Pourquoi ? Eh bien parce que ce comte ne voulait pas quitter sa table de jeu. C'est la raison pour laquelle il a eu l'idée de mettre quelques tranches de viande froide entre 2 morceaux de pain. Depuis, on appelle donc ce casse-dalle sandwich. Mais pour être tout à fait exact, on trouve des traces de sandwich depuis l'Antiquité, même si à l'époque, ça ne s'appelait pas encore comme ça. En fait, on consomme des sandwichs depuis que le pain existe. Mais à l'époque de John Montagu, le diplomate qui ne voulait pas abandonner sa partie de cartes, les sandwichs étaient plutôt réservés à une élite aristocratique, dans des cercles ou des clubs privés, d'où le nom de club sandwich. Il faut attendre l'avènement d'une production industrielle de pain prédécoupé, le pain de mie, pour que les sandwichs deviennent un encas populaire, consommé par les ouvriers à la pause-déj. Les sandwichs sont si pratiques qu'on en trouve d'ailleurs partout dans le monde, du banh mi vietnamien au tramezzini italien, en passant par, évidemment, le jambon beurre en France. En parlant de banh mi d'ailleurs, je vous emmène chez Min Chi, qui travaille habituellement en tant que seconde cuisine chez Fagio à Paris et qui a profité du confinement pour se lancer un défi, faire des sandwichs vietnamiens à partir de charcuterie faite maison. Il nous explique comment cette idée lui est venue.
C'est parti d'un constat que j'avais fait quand les restaurants avaient fermé, c'est que je mangeais de plus en plus de sandwichs. En fait, à l'époque, j'avais une copine qui habitait pas loin du 13e. Et en fait, on allait souvent manger des banh mi. C'est une période où j'ai mangé beaucoup de banh mi, où j'analysais beaucoup les banh mi que je mangeais. Et je me rendais compte aussi que j'adorais ça. Et avec l'ennui de ne pas pouvoir retourner en cuisine, je me suis dit, tiens, pourquoi j'essaierais pas de faire mes propres banh mi pour... Déjà, je voulais impressionner cette copine. Et aussi m'occuper et sortir un peu de cette déprime, je pense qu'il doit concerner pas mal de cuisiniers au chômage. Donc voilà. Je voulais être très classique. Je voulais en fait reproduire le banh mi que j'avais goûté au Vietnam lors de mon dernier voyage, c'était il y a 2 ans. Et j'ai mangé beaucoup de banh mi là-bas et je voulais reproduire ce banh mi avec un goût, avec des charcuteries qui étaient assez douces. Avec l'opulence aussi d'un sandwich qui est bien garni, avec différentes charcuteries. Du coup, je me suis mis à faire des tests de charcuterie. Certains, j'avais commencé un peu avant, et d'autres, je me suis lancé sur le moment. Donc, il y a 3 charcuteries différentes. Il y a du porc séché. Donc, c'est du filet mignon de porc qui est séché doucement et qui est filoché et qui a une texture très cotonneuse. Il y a le rôti de porc un peu classique, charsu. Et il y a le chalour, qui est cette mortadelle vietnamienne, qui est un mélange de porc et de poulet, qui est mixé avec un batteur plat pour justement pas briser les fibres et avoir cette texture qu'on connaît du chalour. Puis derrière, la garniture classique de coriandre, de pickles, de radis et de carottes. Et aussi une mayonnaise qui était citronnée, En fait, l'idée de citronner la mayonnaise, c'était compenser l'absence de concombre qui apporte énormément cette fraîcheur. Et l'idée, c'était voilà, de ramener un truc plus frais avec les zestes de citron dans la mayonnaise. C'est aussi une mayonnaise qui est un peu sucrée, parce que je suis très fan de la mayonnaise japonaise et le chef avec qui je travaillais chez Fadio, je voyais qu'il sucrait toujours un peu sa mayonnaise et voilà, c'est parti de là.
Pour mettre au point ce sandwich, Mine est passé par une véritable étape de recherche et développement dans la petite cuisine de son appart dans le 18e arrondissement de Paris. Parmi toutes les charcuteries qu'il a réalisées, celle qui m'impressionne le plus, c'est le zor, qu'on appelle aussi cha luo, ce pâté de porc vietnamien, parfois surnommé mortadelle vietnamienne, dont la texture est si particulière. Pour obtenir celle-ci, il faut suivre une préparation très précise.
Il y a eu plusieurs essais pour le cha luo, surtout des essais au niveau des assaisonnements. Après, c'est pas forcément un cha luo très classique parce que ça pourrait être un peu entre le cha luo et le cha xin, tu sais, la mortadelle qui est aussi frit à l'extérieur.
Ah oui.
Donc voilà, donc c'est un peu un mix des deux.
Ouais.
Donc du coup, je la cuis moi au four alors que le cha luo normalement est cuit à la vapeur, donc je le cuis au four avec un peu de vapeur, puis derrière je la colore très rapidement, voilà, pour aussi d'un point de vue esthétique, pour que ce soit un peu plus appétissant. C'est mixé violemment, mais ce sera jamais la viande ne sera pas hachée.
Ouais.
En fait, c'est pour ça que j'utilise vraiment l'embout, le batteur plat d'un kitchenaid, et aussi la technique, c'est de refroidir la préparation pendant 3 heures de la mettre en cellule pour que la viande se tienne bien. Quand on la mixe. C'était un truc aussi par défi, parce que je pense qu'on a tous, en tant que franco-vietnamien, on a tous mangé le cha luo industriel. Et c'était aussi par défi, justement, avec cette copine qui, elle, en achetait beaucoup, parce qu'elle customisait toutes ses soupes, ses migoy et tout, avec ce cha luo. Et elle m'avait un peu lancé au défi. Et je lui ai dit, mais déjà, j'en avais goûté des excellents au Vietnam. Et je me suis dit, mais attends, je suis capable d'en faire un très bon. Et voilà, je me suis lancé là-dedans.
Et comme Min n'est pas à un défi près, après le banh mi classique, il s'est lancé dans la réalisation d'un banh mi vegan. On peut trouver celui-ci en ce moment chez Fadjo Salumeria 3 jours par semaine. On vous en dit plus en description de cet épisode.
L'idée du banh mi vegan, en fait, c'est que quand j'ai lancé le banh mi au porc, il y a plein d'amis végétariens et végétaliens qui voulaient me soutenir, qui voulaient le goûter, et ça leur donnait même envie, mais ils ne pouvaient pas. Et donc, je me suis dit que j'allais lancer un banh mi vegan, aussi parce que à la culture vietnamienne, on mange beaucoup de légumes. Et souvent, même par rapport à la viande, les légumes sont très peu transformés, moi, je trouve. On peut transformer, surassaisonner des viandes, mais il y a quelque chose qui est assez sacré dans les légumes au Vietnam et on y touche très peu. Et donc, j'ai toujours mangé des légumes. Mes parents sont restaurateurs et derrière leur restaurant, il y a une pagode qui avait été ouvert en 2000. Et donc, du coup, moi, depuis mon enfance, j'ai toujours passé du temps à la pagode pendant des cérémonies où des repas vegan étaient servis.
Ah oui, la cuisine chai, du coup.
Exactement, ouais, la cuisine chai. Et puis, il y a quelques années, quand je bossais dans le restaurant de mes parents le week-end pour les aider, souvent, je restais le dimanche pour faire du bénévolat dans la pagode derrière ce resto. Et j'ai passé peut-être 3-4 mois à y travailler tous les dimanches. Et en fait, en cuisine, on voit très peu de garçons. C'est, culturellement, c'est beaucoup les femmes qui sont en cuisine. Et du coup, à la pagode, ils m'ont vu débarquer. Et j'étais super bien accueilli. Ils m'ont appris plein de choses. Et moi, j'ai vu plein de choses super intéressantes. Et les techniques un peu de cuisine, ou cette éducation à la culture végane et à la cuisine bouddhique, je l'ai vraiment acquise là-bas. Et en fait, je voulais reproduire ça dans un sandwich. En tout cas, je veux que ce sandwich végane ne soit pas genre le plan de secours pour ceux qui ne peuvent pas manger du porc. Donc, je ne voulais pas que ce soit le sandwich en rabais. Donc, je voulais vraiment aussi qu'il y ait cette même opulence, même que visuellement, on se dise que c'est super appétissant et qu'il puisse plaire aussi à des gens qui mangent de la viande. Et donc, je voulais aussi qu'il y ait un peu ces couches de préparation différentes, avec différentes textures et différents goûts. Donc, du coup, il y a trois bases de préparation vegan. Il y a un pâté, donc le pâté chai qui se reproduit un peu le pâté au foie de poulet qu'on peut avoir dans d'autres recettes de banh mi, et qui est à base de champignons, de noix, d'oléagineux torréfiés et d'oignons. Et c'est monté avec de la crème de tofu. Et donc, je le tartine dans un premier temps le pain avec. Ensuite, il y a des tranches censées reproduire le tchalo, mais c'est du lait de soja caillé. Donc, c'est des feuilles de lait de soja caillé que je cuis et qui sont pressées dans des feuilles de bananier. Et du coup, une fois la cuisson faite, ça a vraiment un peu cette texture de viande. Et ça, je l'assaisonne avec une sorte de jus de soja. C'est un bouillon de légumes et soja réduit. Du coup, ça fait quelque chose d'assez corsé. Et la troisième préparation, c'est le bi chai. Donc, le bi, c'est à la base, c'est une préparation à base de porc, de couenne de porc et de riz grillé et d'ail. Et là, j'ai remplacé le porc par du tofu et des pommes paille, donc de la pomme de terre frite, et toujours le riz grillé, voilà, et sans ail. Et puis dans le sandwich vegan aussi, cette mayonnaise citronnée, mais qui est juste montée avec une purée de pois chiches au lieu d'utiliser un jaune d'œuf.
Je suis ensuite allée dans le 10e arrondissement pour tendre le micro à Thibaut, ancien pharmacien en reconversion professionnelle, qui nous a parlé du sandwich alsacien qu'il a pu mettre au point lors de son stage chez Candide à Belleville.
J'ai eu la chance de faire un sandwich pour le restaurant Candide. C'est un sandwich qui est d'inspiration alsacienne, qui chez nous s'appelle la Morissette. C'est un nom déposé, donc on l'a appelé bretzel brioché. Parce que la base de la pâte, c'est la même recette que le bretzel. Donc, c'est plus ou moins une pâte à bun. Et ensuite, c'est poché dans du bicarbonate de soude pour lui donner cette coloration un peu brune. Et donc, nous, au lieu de le faire sous forme de bretzel, cette forme en 8 que tout le monde connaît, eh ben, on l'a roulé comme des mini baguettes afin de pouvoir en faire des sandwichs. Et donc, du coup, c'est une recette que j'ai pas élaboré, mais en tout cas, je m'en suis inspiré de ce que mes grands-parents ont pu me dire. Je suis allé faire un peu le tour des villages là où j'habite pour avoir les astuces pour faire ce pain. Et il se trouve qu'à Paris, personne ne connaît ça. Et moi, ça fait un bout de temps maintenant que j'ai ça en tête. Je me dis que ça pourrait être une occasion de faire découvrir un bout d'Alsace à Paris. Alors là, on l'a mis avec du poulet fumé au bois de pommier, un coleslaw, donc du chou rouge, chou blanc avec une mayonnaise, de la moutarde au miel, et de la salade et des oignons pickles. Voilà, c'est assez gourmand et très, très rassasiant.
Pour Thibaut, ce sandwich est un véritable classique de son enfance en Alsace.
Alors, en Alsace, c'est vraiment le goûter. En fait, c'est un sandwich qui, à la base, a été développé par Poulaillon. C'est une chaîne en fait, de boulangerie dans le Grand Est. Et c'est vraiment devenu le 4 heures. Et même pendant les réceptions, souvent, il y a des petits canapés avec ce type de pain. Et c'est vrai que c'est étonnant en fait que ce soit pas arrivé jusqu'ici, sachant que c'est hyper hyper développé en Alsace. Je pense que si un Alsacien écoute ça, il reconnaîtra directement la Morissette. Habituellement, c'est assez basique, c'est des sandwichs qui sont mangés sur le pouce, donc ça va être des jambons beurre, des rosettes, ce genre de choses. Et donc là, le but c'était d'essayer de le porter à un autre niveau en essayant de le garnir de choses un peu plus sympas que ce qu'on voit habituellement. Quoi.
Il nous parle de la typicité de ce pain alsacien.
C'est une mie aérienne, mais quand même assez dense, qui nourrit. Et au-delà de ça, le bicarbonate apporte en fait une croûte un peu texturée avec une couleur très brune et un goût un peu minéral. Et c'est vrai que c'est assez reconnaissable. Quand on l'a en bouche, on reconnaît directement le goût sans pouvoir vraiment le qualifier. C'est quelque chose de très particulier.
Dans un sandwich, le choix du pain influe beaucoup sur le goût général. On imagine à quel point la pâte de bretzel apporte son caractère à la Morissette. Mais il y a un autre élément qui joue beaucoup également, ce sont les condiments. Alessandro, chef au Candide, nous dévoile l'une de ses sauces préférées.
C'est vrai qu'il y a des condiments sympas. Je pense que tout le monde devrait avoir de la harissa, mais pas la harissa qui pique trop. Ça, c'est elle n'est pas très, très bonne. Enfin, moi, j'aime, ça se mange avec le couscous, mais une harissa judéo-tunisienne qui est plus sur l'ail. Et nous, on adore, c'est quelque chose qu'on adore ici au Candide, c'est qu'on l'a vraiment dans les frigos assez régulièrement. Même à la maison, on l'a. Donc ça, c'est vraiment cool. L'harissa, je pense que c'est assez hétéroclite et on peut la mélanger avec de la mayo, on peut agrémenter une préparation avec pour la relever un petit peu. On est à Belleville, donc du coup, dans toutes les épiceries orientales, on peut la trouver assez facilement. C'est la marque, c'est Shimon Harish, et c'est une harissa judéo-tunisienne qui est plus sur l'ail que sur le pimenté. Et pour moi, c'est la sauce à avoir dans le frigo qui peut changer la donne.
J'ai ensuite tendu le micro à Camille, cofondatrice du restaurant Candide, qui évoque avec joie ses souvenirs marquants de sandwich, liés à ce qui nous manque beaucoup actuellement, le fait de voyager.
Lors d'un de nos voyages avec Alessandro, on était donc à Jérusalem et au marché Maraneh Yehuda, on a découvert un sandwich dont on n'avait jamais entendu parler avant, c'est le memoula wesh. Et en fait, c'est un sandwich de la cuisine yéménite. C'est un sandwich végétarien et en fait, c'est une sorte de... C'est assez drôle parce qu'on n'avait jamais vu ce pain avant. C'est une sorte de pita, mais un peu feuilleté. Donc un petit peu levé, qui est cuite à la poêle. Et pareil, très drôle parce qu'il y a tout... C'est orchestré, en fait. Ils les cuisent dans des poêles et ils les font sauter comme des crêpes. C'est assez impressionnant. Et donc, il y a un stand qui fait ça dans le marché. Et à l'intérieur, il y a du houmous, il y a des aubergines, il y a de l'œuf dur, il y a des olives, il y a pas mal de piqueuses, un petit peu d'herbes fraîches. Et on était avec pas mal de chefs et on avait aussi un journaliste culinaire avec nous et on découvrait tous. Et vraiment, on a tous été subjugués par ce sandwich qui sortait un peu de nulle part, qu'aucun de nous connaissait.
Direction maintenant Lolo Cave à manger dans le 9e, où je retrouve Clément alias Croquemel, Croqueur Grider comme il se décrit volontiers en tant que grand gastronome urbain. Après avoir quitté une vie de bureau il y a quelques mois, Clément songe aujourd'hui à se réorienter dans le milieu de la bouffe. Alors en attendant, il tente des trucs et s'amuse. Pendant 3 jours, avec son acolyte Théo, Clément a vendu 3 types de sandwich, dont un qui m'a particulièrement plu, avec son porc et son œuf rappelant les ingrédients du ramen. Clément nous décrit leur composition.
Sandwich baguette, bien tradi. Donc ça, c'est les baguettes qu'il y a rue des Martyrs, chez Farineo. Et la garniture, on est parti sur des trucs... Qui pourrait rappeler un peu le classique sandwich français, mais avec la volonté aussi de faire un petit clin d'œil au Japon, à la cuisine asiatique, aussi au banh mi. On garde la baguette, on garde un peu la coriandre, on garde les pickles. Dedans, j'ai rajouté du gingembre qui se retrouve dans les 3 sandwichs, gingembre en pickles aussi. Et après, 3 garnitures, donc un poulet frit façon karaage, donc beaucoup plus léger que le poulet frit américain, avec juste une panure qui est faite de maïzena et marinée dans du saké, du mirin, de la sauce soja, de l'huile de sésame, de l'ail et du gingembre. Ensuite, un porc chachou avec un œuf, donc ça c'était le sandwich un peu ramen, parce qu'on retrouve du coup l'œuf qui est mariné aussi pareil dans la même combo de saké, mirin, sauce soja. Donc, plus il marine, mieux c'est, parce que l'œuf qui est donc mollet à la base se coagule de plus en plus et ça fait comme un petit bonbon. Donc, on retrouve cet œuf-là et le porc chachou. Donc, le porc chachou qui est un peu comme un rôti de porc, mais pareil, toujours dans ces 3 mêmes ingrédients. Et il cuit pendant 6 heures, il refroidit une nuit au frigo et après, ça fait vraiment un rôti de porc. Donc, c'est pareil, c'est là où il y a le lien entre un peu la France et le Japon. Et le dernier, c'est macro grillé. Macro grillé, et pour les 3, donc on a pour le macro grillé, on a une petite mayonnaise yuzu. Ensuite, on a pour le porc, on a une mayonnaise sauce soja, et pour le poulet, on a une mayonnaise sriracha.
Clément, qui mange souvent des sandwichs chez lui, nous livre quelques conseils pour masteriser cet art.
Pour moi, un bon sandwich, c'est déjà une baguette qui est bonne qualité, mais qui n'est pas trop cuite pour pas s'arracher le palais avec la croûte. Il faut qu'il y ait quand même. Il faut que ça soit réconfortant, que ça soit rapide à faire. Donc, ça peut être des restes, des leftovers, des trucs, de la viande de la veille, une mayo. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est aussi avoir un petit côté rafraîchissant qui vient un peu contrebalancer ça et ajouter un peu plus de fraîcheur au sandwich. Donc, des pickles, mais ça peut être juste tout simplement de la salade ou un zeste de citron. De très simple, du coup, et pas forcément obligé que ça soit chaud, ça peut rester froid. Et achetez-vous un toaster à panini, parce que ça, j'ai emménagé en coloc avec des amis et ils avaient ce toaster à panini qui m'a fait redécouvrir les lendemains de raclette, à mettre une baguette, du fromage à raclette et un petit peu de rosette. Qu'est-ce que j'ai fait comme sandwich encore qui était assez fou là, avec de l'ail des ours aussi, ail des ours, ricotta, huile d'olive, un peu de parmesan au toaster, comme ça là on ferme et ça c'est ça, tous les dimanches soirs il passe beaucoup mieux comme ça.
Je suis ensuite allée tendre le micro à Marie, que vous avez déjà entendu dans notre épisode sur le cacao. Marie travaille aujourd'hui chez Jogging, à Marseille, où elle propose le midi une cuisine locale et durable.
Alors, avec Betty, qui m'a rejoint récemment chez Jogging, on a imaginé un sandwich inspiré du petit salé aux lentilles, avec une crème de lentilles et un chorizo, et des petites carottes rôties pour faire penser à ce plat délicieux qu'il est difficilement possible de manger en temps de Covid et qu'on a du coup transformé et mis dans un sandwich. En fait, on a des super bonnes lentilles de la ferme Pastière qui est située à Mérargues et avec qui on travaille pour les céréales. Et on a des chorizo de la fromagerie Roumanie. Et du coup, en voyant les deux éléments dans l'épicerie, on a imaginé ce plat dans le sandwich. Alors, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, tu ne penses pas à la présentation. Tu vas plus penser en termes de, évidemment, l'équilibre des saveurs, mais aussi les textures. Et tu dois toujours avoir quelque chose d'assez humide qui imprègne la mie, quelque chose d'un peu croquant, quelque chose avec de la mâche. Ça, c'est assez rigolo aussi, de penser plus en termes de texture finalement qu'en termes de composition dans l'assiette. Et surtout quelque chose qui matche avec le fait que le pain absorbe l'humidité des ingrédients. Et même pour la personne qui le consomme, c'est pas du tout la même façon de manger, parce que c'est vrai que dans une assiette, tu vois visuellement ce que tu vas mettre dans ta bouche, alors que dans le sandwich, c'est un peu à l'aveugle. Enfin, il y a ce pain qui étouffe esthétiquement ce qui le comporte. Et du coup, tu croques un peu à la découverte de la garniture, alors que en effet, dans l'assiette, tu vois tout ce que tu mets dans ta bouche. Comme la vision du plat est étouffée, il faut que les autres sens soient plus déployés.
En plus de leur maniabilité, les sandwichs ont pour avantage d'éviter le suremballage des plats à emporter, avec toutes ces barquettes qui finissent bien souvent dans une poubelle de rue, même lorsqu'elles sont compostables. Alors en attendant que les restos ouvrent à nouveau, longue vie aux sandwichs. Merci à Michele Farnesi, Minchi Trandine, Thibaut Ménezin, Alessandro Candido, Camille Guillot, Clément Dupetit et Marie Vial de m'avoir donné de leur temps pour parler de sandwich. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Charline Yao. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.